Il y a 3 semaines, je crois, on a dit qu'il y a deux approches qu'on peut prendre à une étude ou un sermon, un message, qui sont les deux bibliques, hein, ou qui peuvent être bibliques. Et c'est quoi ces deux approches? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Voilà, très bien. On a parlé de l'approche thématique. Et c'est quoi l'approche thématique? Tu veux nous expliquer, Geneviève? Bon, on prend un thème, hein? Voilà. Et puis on fouille toute la Bible pour savoir ce que la Bible dit sur ce thème. Et donc une telle étude va nous amener à regarder bien de passages différents. Parce que on regarde dans l'Ancien Testament, est-ce que ça parle de ce thème dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on le trouve dans les psaumes, etc. On regarde un peu partout dans la Bible. Aujourd'hui, avec les moteurs de recherche, même avec Google, hein, vous pouvez chercher des versets bibliques. Vous n'avez même pas besoin d'un logiciel spécial. Il y a des sites, vous pouvez chercher des mots-clés. Par exemple, qu'est-ce que la Bible dit de la foi? Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit de la grâce? Bon, tous les sujets, vous pouvez vous-même, avec un peu de recherche, trouver pas mal de versets. C'est ce que nous faisons actuellement avec ce thème des démons. On cherche ce que dit la Bible sur ce thème. Donc c'est une approche thématique. Et puis, l'autre approche, on commence pas avec un thème, on commence avec quoi? Quelqu'un se rappelle? Voilà, le passage ou le verset lui-même. Et souvent on appelle ça une approche textuelle, parce qu'on commence avec le texte. Et on ouvre le texte qui est devant nous, qu'on a choisi, ou voilà, le texte de la journée qu'on va lire. Et j'espère que, en lisant le matin, disons que vous lisez d'une façon suivie, j'espère que la question que vous posez, c'est que dit le texte? Que dit le texte? Le Saint-Esprit me parle à travers ce texte. C'est inspiré du Saint-Esprit. Donc, il me parle dans ce texte. Qu'est-ce qu'il me dit? Et là, vraiment, on a le cœur bien ouvert à tout ce que Dieu veut nous dire. C'est pas toujours à nous de choisir le sujet. Un enfant ne peut pas aller à un parent et dire, bon, je veux bien te parler si on parle uniquement de bonbons et des vacances. Voilà. Et là, ma maman va dire, ah non, non, on a d'autres choses à discuter aussi. Et parfois, on vient à Dieu comme ça. Il y a des gens qui me disent, il n'y a pas longtemps, bon, moi je lis, je crois qu'il avait 5 ou 6 psaumes et il lit toujours les mêmes psaumes. Parce que ça, c'est ce qu'il aime. Ça fait du bien. Bon, c'est bien de lire les psaumes, hein. Mais si on se limite, on dit non, Dieu, tu peux que me parler dans ces 5 psaumes. Non. Dieu veut peut-être me parler de l'histoire d'Israël. Moi, je dis, mais c'est pas très histoire, moi. Ben, il veut me parler de ça. Il y a des choses dont il veut me parler. Je lui donne le choix même du sujet. Donc, il y a l'approche thématique qui est bon et l'approche textuelle. Et la plupart du temps, dans les messages qu'on fait ici, on prend l'approche textuelle. On prend le texte et on laisse le texte choisir le contenu, mais même le thème, le sujet du message. Comme ça, c'est pas le pasteur qui choisit à chaque fois, ben, on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de ça aujourd'hui. Parfois, c'est important. Par exemple, en octobre, on va parler de quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Ça a été annoncé. Et plus tard, je vais vous distribuer une annonce. On va parler de la prière. On va voir le thème pendant la prière. Nous avons fait ça plusieurs fois. On a eu tout un mois sur la famille une fois, tout un mois sur la mission. Bon, on a eu plusieurs mois comme ça, thématiques. Donc là, parfois on commence avec un thème, mais la plupart du temps, on commence avec le texte. Voilà. Bon, revenons donc à notre sujet pour la classe et ce sujet des démons. Et nous avons considéré premièrement l'origine des démons, et nous avons dit qu'ils avaient été créés bons. C'était des anges. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Et nous avons constaté la réalité de ces êtres. On les voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Dieu a créé plein de choses. Il y a plein d'étoiles et de planètes qu'on ne voit pas, sûrement, que Dieu aussi a créé. Il y a aussi des anges, des êtres qui ne sont pas des humains, qui ne sont pas des animaux non plus, mais des êtres intelligents. Et puis, ils ont péché, on a considéré après leur chute. Et puis, on a considéré deuxièmement l'activité. C'est le ministère qui me venait à ma tête, mais on ne dirait pas le ministère des démons. C'est plutôt l'activité des démons. Et c'est très lié avec le péché. C'est lui qui a tenté Adam et Ève au péché en premier. Et c'est Satan et ses anges qui s'opposent à Dieu en faisant tout pour garder les perdus captifs et assujettis à leur volonté. On a expliqué que, en fait, si on n'est pas dans le camp de Dieu, nous sommes sous l'emprise du diable. Tout le monde. C'est pas une question d'être possédé ou non. La Bible dit en Éphésiens 2 que vous marchez tous selon le train de ce monde, selon la puissance qui opère dans... Ah mince, le verset m'est échappé, mais dans les dieux célestes ou dans les ténèbres, dans ce monde, c'est-à-dire on marchait selon le train de ce monde et selon le prince des ténèbres. Et puis, une fois en Christ, Satan n'a pas fini et ses démons n'ont pas fini. Il est toujours là pour s'opposer continuellement à Dieu, même dans la vie des chrétiens, pour les séduire, pour les tenter, pour les accuser. Et c'est un peu là où nous sommes arrêtés. Nous avons pensé de plusieurs personnes comme Job, David, Josué et même Jésus, contre qui Satan est venu. Alors, je vais regarder maintenant. Non, ça ne répond pas. Même là, ça ne répond pas. Bon, je te laisse remettre. Éphésiens 4, 26 et 27. Jocelyn, est-ce que tu peux lire ces deux versets, Éphésiens 4, 26 et 27, et puis Sheila, après tu liras Éphésiens 6, 11 à 14. Et nous considérons ici le rôle de Satan, même dans la vie des chrétiens. Quelle est son activité? Éphésiens 4, 26 et 27. Vas-y.
Vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
Voilà. Ne donnez pas accès au diable. De quelle façon, Jocelyn? Comment est-ce qu'on donne accès au diable? Non, c'est juste avant. Juste avant. Relis-le et puis on va tous trouver la réponse. Comment est-ce qu'on donne accès au diable? Est-ce que c'est en laissant la fenêtre ouverte la nuit? Ouais, c'est en se couchant dans la colère. Okay. Satan, il aimerait qu'on pense de lui comme, je sais pas, quelqu'un avec une grosse fourchette... fourche rouge et une queue rouge et qui vient claquer les portes, etc. Mais c'est pas sa manière d'agir. C'est toujours à travers le péché. C'est toujours pour nous pousser à pécher contre Dieu. Et on donne accès à Satan pas en, je sais pas, oubliant de faire un truc important, ça relève de la superstition, hein, les gens qui tapent sur le bois, il y a plein de trucs que les gens font pour essayer de chasser le diable. Mais en fait, le diable, il entre par le péché. C'est pour ça qu'il dit, si vous vous mettez en colère, mais en fait, il dit, vous pouvez parfois, la colère, possible, hein, pour nous, c'est presque impossible, mais c'est possible s'il n'y en a pas de péché, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et surtout la colère plus que d'autres choses. Pourquoi, quelqu'un a une idée, pourquoi la colère donnerait peut-être plus d'accès au diable? Pourquoi il souligne ici la colère? Oui. Oui, ça agit sur tout, tu as dit? Oui. Oui, Wilson? Oui. Oui, Dieu a fait le, enfin, Christ a fait le lien en Matthieu 5, hein, entre la colère et le meurtre. Oui. Oui. Oui, la force est en elle-même la colère est une force destructive, par nature. On ne construit pas avec la colère, on détruit avec la colère. Et Dieu est un Dieu de colère. Il est un Dieu de colère, et l'enfer existe parce que Dieu est un Dieu de colère. Donc Dieu va toujours démontrer sa colère, ça c'est l'enfer. Mais quand moi j'utilise la colère pour détruire, souvent je me mets à la place de Dieu. C'est-à-dire, je suis en colère parce que c'est ma volonté qui n'est pas faite. C'est pas moi qui suis respecté, ou etc. Donc, je joue le rôle de Dieu, d'un Dieu en colère, sauf que je me place même sur le trône. Et puis la colère aussi est souvent déraisonnée. Quand on agit par colère, on ne réfléchit pas souvent. C'est la force, mais c'est l'impulsion aussi de la colère. Et c'est très très dangereux. Et Satan aime la colère parce qu'il aime la destruction. Et puis on va lire Éphésiens 6, 11 à 14 parce qu'il revient. Vous pouvez suivre sur l'ennemi ici, le... Vas-y, Sheila. Voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ça, c'est pour pouvoir tenir ferme contre qui, verset 11? Les ruses du diable. Et le commandement ici pour nous, c'est de tenir ferme. Hein, on va pas aller le chasser, mais on va se tenir ferme et d'une certaine manière, on reviendra sur ça plus tard. Comment combattre l'ennemi? Là, c'est la réponse hein, dans ces versets. Mais je veux souligner à la fin du verset 11, il dit « Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable » et au milieu du verset 13, il dit « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour ». Donc, le diable, l'arrivée du diable, c'est aussi décrit comme le mauvais jour. Et nous avons tous affaire au diable, soit directement, soit à travers ses démons. Je vous donne une citation d'Abraham Kuyper, je crois qu'on dit son nom. Il était à une époque le premier ministre du Pays-Bas. Hein. C'était il y a longtemps, quand on pouvait être chrétien, évangélique, croyant et premier ministre en même temps. Et il dit, s'il arrivait que le rideau soit tiré et que le monde spirituel qui derrière apparaisse au grand jour, il offrirait à notre perception spirituelle la vue d'une lutte si intense, si brutale, balayant tout ce qui est à sa portée, que la bataille la plus acharnée ayant été combattue sur la terre ressemblerait en comparaison à un simple jeu. Ce n'est pas ici, mais là-haut, que le vrai conflit est en cours. Nos luttes terrestres en sont le contre-coup. Voilà. Donc ça, c'est la vraie bataille. Mais il faut savoir bien s'armer contre les ruses du diable. Et on reviendra sur ça plus tard. Mais ça c'est donc l'activité des démons. Ils s'opposent à Dieu même en faisant tout pour séduire, tenter et accuser les élus. Voilà. Et puis, on arrive donc, troisièmement, après l'origine, l'activité, à la défaite de Satan et de ses démons. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et on va relire Genèse 3, 15. Lydia, tu peux lire Genèse... Où est Lydia? Ah, pardon. Elodie. Non, je regardais Elodie, j'ai dit Lydia, donc je m'excuse. Je supplie le pardon. Genèse 3, 15. Voilà, Elodie, merci. Voilà. On va pas prendre beaucoup de temps avec cela parce qu'on l'a déjà vu, mais Dieu parle à Satan et il dit que la postérité de la femme écrasera sa tête. Et cela veut dire, on a vu que quand Christ a donné sa vie sur la croix, ça n'a pas été le coup de Satan contre Christ, c'était avant tout le coup de grâce de Christ contre Satan. La croix n'est pas Dieu, quelqu'un dit, la croix n'est pas Dieu en train de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation générée par le diable. C'est le point culminant de son plan éternel de racheter les pécheurs déchus et dans le besoin. La croix, c'est en fait Dieu qui va vaincre le diable. Ça nous donne aussi déjà une connaissance de savoir comment vaincre le diable. Il n'a pas fait avec une armée, avec plein d'anges. Il a fait en donnant sa vie. Alors pourquoi est-ce que Christ a dû donner sa vie de cette façon pour pouvoir vaincre le diable? Quelqu'un a déjà une réponse? Je sais que vous savez déjà. Quelqu'un veut nous aider avec cela? Pourquoi pour vaincre le diable, quand on vient de lire en Genèse 3, Christ a dû mourir? C'est pas normalement comme ça qu'on gagne la bataille. Vous êtes d'accord? Un général qui va et se laisse tuer par les ennemis, on ne dit pas qu'il est vainqueur en faisant cela. Pourquoi Christ est-il vainqueur? Oui, Wilson? Ok. Très bien. Il cite le verset « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». Très bien. Je vous fais réfléchir. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter à cela? Oui, prudence.
Peut-être qu'en pense que Satan, il a sur nous, pas que du péché, c'est la mort. Donc, du coup, il y a le verset qui parle des guillons, en fait, de la mort, je ne sais plus. Mais si Satan, pour assurer que c'est qu'il meurt pour détruire l'aiguillon de la mort qui était contre lui.
Oui, l'aiguillon de la mort, c'est le péché.
Péché.
Ouais.
Mais il faut qu'il y ait une mort pour détruire.
D'accord. Oui. Non, c'est bon, parfois c'est là dans la tête, mais c'est bien d'y réfléchir comment l'exprimer. René ?
Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le juste salaire devait être
payé. Ok. Oui, une question de justice ici. Question de péché. Parce que Dieu, n'importe ce qu'il fait, il doit rester Dieu. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas nous sauver d'une manière injuste. On est d'accord? Parfois, imaginez que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes ministre. Et vous avez un enfant, il a 20 ans, il ne trouve pas de fac, il a besoin de faire ses études quelque part. Vous êtes tenté d'utiliser votre position pour manœuvrer un peu les choses, un coup de téléphone à quelqu'un, forcer un peu la porte ici, peut-être menacer quelqu'un, parce que vous aimez votre enfant. Et on se dit, bon, c'est une bonne chose qu'un papa aime son enfant. Oui, mais après, on n'est pas très content quand il triche, quand les parents trichent. Mais ça se fait tout le temps. Les parents trichent très souvent pour le bien de leur famille, leurs enfants. C'est une tristesse. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas tricher pour ses enfants. S'il va les sauver, il doit le faire d'une manière qui est juste. Et Satan, vous rappelez, c'est l'accusateur. Il est là. Hein? Il est là pour dire, ça c'est pas juste, ils sont pécheurs. Dieu doit pouvoir rester juste tout en justifiant, la Bible dit, celui qui met sa foi en lui. Donc son moyen de sauver doit être un moyen irréprochable. Dieu doit pouvoir se justifier en nous sauvant. Et c'est pour ça que l'arme de Satan n'est pas la force. C'est pas Satan qui vient, il prend le bras de Dieu et dit « Ah, je t'ai eu, t'es coincé ». Non, il peut pas. Mais il peut nous faire pécher pour que Dieu est coincé, si vous voulez, par sa propre personne, par sa propre justice. Et c'est ici où le verset en Hébreux 2 est tellement beau. Donc je vous invite tous à le regarder. Et on va commencer en lisant le verset 14 et 15 seulement. Verset 14 et 15. Sylvain, tu peux lire ces deux versets ? Voilà. Ok. Très bien. Donc il y a trois personnages dans le verset 14. Est-ce qu'on peut les repérer? D'abord, il y a les enfants. On parlait des parents avec ses enfants. Mais les enfants ici, c'est qui? Pardon? C'est nous, voilà. Nous, les chrétiens en Christ, ok? Et les enfants participent au sang et à la chair. C'est-à-dire, nous sommes humains. Nous avons le sang et la chair. Deuxième personnage, il a également participé lui-même. C'est qui le il? C'est Jésus. C'est le fils ou le père? Le fils. Pourquoi on sait que c'est le fils? Voilà, il prend chair et sang. Hein, il participe aussi lui-même. C'est-à-dire, il devient humain. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Carné veut dire quoi? Chair. Incarnation veut dire il prend chair. Donc, il y a nous, nous sommes humains, il y a Jésus qui devient humain. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu est-il devenu homme? Pour nous, c'est inconcevable, c'est impossible. Ce serait un blasphème si la Bible ne le disait pas. Mais cette verset va nous aider à comprendre pourquoi Dieu, le Fils, a dû devenir homme. C'est afin que, par quoi? Voilà, par la mort. Il rend impuissant, et maintenant nous avons le troisième personnage dans le verset, et c'est qui? C'est le diable, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il y a nous, Jésus et le diable ici. Nous, nous sommes humains, Jésus devient humain, afin que par la mort il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Satan, en faisant pécher Adam et Ève, avait, si vous voulez, la puissance de la mort. Il peut maintenant nous faire mourir. C'est pas Adam et Ève qui choisissent de mourir. C'est Dieu qui va les condamner à la mort, mais puisqu'ils ont péché, c'est Satan, dans ce sens, qui semble être le vainqueur. Mais, pour continuer le verset 15, il, c'est Jésus, délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Dieu a vaincu Satan en le désarmant. Il l'a rendu impuissant, le verset 14 dit. Mais on se rappelle que ces armes ne sont pas les armes charnelles. C'est pas les pistolets, la force, etc. C'est des armes morales. C'est une question morale. On est devant le juge. Le combat, si vous voulez, se passe dans une salle d'audience. Et Dieu a dû faire face à ces armes que Satan a utilisées. Et il a dû utiliser les mêmes types d'armes que Satan a utilisées. Et on a dit, ces deux armes étaient quoi? Vous vous rappelez la dernière fois? Quelles sont les deux armes que Satan utilise? Exactement, la tentation et puis... Pardon? Oui, ça c'est tout ça. Tout ça s'est compris dans la tentation. Mais après qu'ils ont chuté, il va vers Dieu et il nous accuse. C'est l'accusateur des frères. Donc, la séduction, la tentation et puis l'accusation. Et Dieu doit faire face à ces deux armes. Dieu a dû devenir humain pour réparer les dégâts que l'homme avait faits. Et donc c'est la deuxième personne de la Trinité qui ajoute à sa nature divine une nature humaine. Et à la suite de sa vie, de sa mort, il remporte la victoire sur Satan. Comment est-ce qu'il fait ça? Bon, on va prendre ces deux armes. Il a dû d'abord désarmer le diable de son arme de la tentation. Alors, on continue en Hébreu 2, et on va lire le verset 16. Geneviève, tu peux lire le verset 16? Ok, très bien, bienvenue. Donc, il va venir en aide à la postérité d'Abraham. Jésus va venir en aide. Et en conséquence, pour venir en aide, il a dû, ça c'est le seul moyen, lis le verset 17, Geneviève, il a dû faire quoi? Et le verset 18.
Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont.
Voilà. Vous voyez ça? Il doit être rendu semblable à nous pour que, ayant été tenté lui-même, ça c'est l'arme que Satan a utilisée contre Adam et Ève, il doit aussi le recevoir. Il peut secourir ceux qui sont tenté. On a vu au verset 16, il vient en aide à nous, la postérité d'Abraham, par la foi. Hein, nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Comment? Bon, il a dû lui-même être tenté. Mais il ne peut pas être tenté en tant que Dieu. Jacques dit que Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne. Il doit être tenté en tant qu'homme pour recevoir cette arme. Le Seigneur Jésus-Christ a dû donc faire face aux tentations afin d'enlever l'arme de Satan. C'est pour ça que juste après son baptême, quand il est inauguré en tant que le Messie, et la voix vient du ciel, que c'est son fils en qui le Père a mis toute son affection, la Bible dit que tout de suite, immédiatement, l'Esprit le poussa où? Dans le désert, pour quoi? Voilà, pour être tenté par le diable. Il faut que le souverain sacrificateur, ou le bon berger, ou le Messie, soit lui-même tenté. Et la question posée lors de ces tentations, c'est est-ce que Jésus va-t-il obéir parfaitement à son Père? Ou est-ce qu'il va choisir un raccourci? Il a faim. Est-ce qu'il va choisir un raccourci? Il va choisir l'obéissance. Et on appelle ça l'obéissance active de Christ. On distingue souvent entre l'obéissance active pendant sa vie et l'obéissance passive pendant sa mort, parce qu'il accepte la mort. Mais en vainquant le diable et ses tentations, le Seigneur a ajouté à sa sainteté divine une justice humaine. Vous voyez ça? Parce qu'il a gardé la loi. La Bible dit qu'elle a été faite sous la loi. Il a été tenté comme tous les autres humains. Et il a obéi en tant qu'homme. Il a maintenant une justice humaine qu'il a en fait reçue par obéissance, en résistant à toutes les tentations possibles. La Bible dit, il a été tenté dans tous les domaines comme nous. Cette différence, c'est quoi? Il n'a pas péché. Donc, il a vraiment une justice humaine. Et lorsque nous croyons en Christ, la justice que Christ a acquise en tant qu'homme, nous est donnée. Elle nous est donnée. Donc, nous avons, quand nous entrons au ciel, nous avons une vraie justice. Nous avons même une justice humaine. Nous avons une justice humaine qui a été acquise face à toutes les tentations possibles. Nous sommes chutés en Adam, mais en Christ, nous avons la justice humaine de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Satan peut dire contre ça? Vous voyez qu'il désarme le diable de son arme de la tentation en étant tenté lui-même à notre place. Jésus, quand il est tenté en tant que notre sauveur. Donc il a été tenté pour nous. Adam, notre représentant, a chuté. Mais Christ, notre représentant, a réussi. Et en Christ donc, en Adam tous, qu'est-ce que la Bible dit? Meurent, mais en Christ tous, vivront. Parce qu'il n'a pas péché. Et on reviendra donc à l'arme de l'accusation la prochaine fois. Voilà. Prenons juste quelques minutes pour se saluer et nous allons recommencer.